Voilà, nous sommes toujours dans notre série sur les questions difficiles et nous prenons l'évangile de Jean au chapitre 14. Jean chapitre 14. Il est écrit au verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Alors, une des questions que certains se posent régulièrement par rapport à ce passage, ils disent, mais oui, mais nous, on ne vit pas ce qui est écrit. Peut-on nous présenter des gens qui ont fait des choses plus grandes que le Seigneur? Voilà la question que souvent on nous pose. Parce que là, le Seigneur dit, ben, ceux qui croiront en lui feront des plus grandes choses. Ben, est-ce qu'on peut en présenter? On a l'impression que finalement, qui est-ce qui ont fait de plus grandes choses que le Seigneur? Il n'y a que les apôtres. Puisque, effectivement, quand on voit la vie de gens comme Paul, de gens comme Pierre, nous voyons certaines grandes choses plus que le Seigneur. On se souvient que l'ombre de Pierre guérissait les gens. Donc à un certain moment, on se souvient que les vêtements de Paul, sans la volonté de Paul, donc ce n'est pas une sorte de fétiche, c'est que ce n'est pas Paul qui a demandé à ce qu'on utilise ses vêtements, mais ce sont ces vêtements utilisés par des gens qui ont guéri les malades. Donc les vêtements de Paul ont guéri. On peut dire que c'est des choses qui sont plus grandes. Voilà. Mais n'oublions aussi pas que quand on dit plus grande, c'est le Seigneur qui continue toujours à agir dans les apôtres, dans ses disciples. C'est pourquoi nous, quand on dit qu'on fera des plus grandes, ce n'est pas sans le Seigneur, c'est avec lui. Maintenant, la question qu'on pose, mais pourquoi alors on ne vit pas cela à notre époque? Souvent, les gens se posent cette question. Mais nous ne sommes pas les premiers à nous poser ce genre de questions. Quand on lit, par exemple, dans le livre de Juges, Juges au chapitre 6, à partir du verset 11. « Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Donc ce n'est pas quelque chose qui est propre à notre génération. Beaucoup de gens, à des époques données, se sont posés les mêmes questions. Mais pourquoi le Seigneur dont on nous parle, mais on ne le voit pas agir selon ce qu'on nous dit? Voilà, c'est une question que beaucoup se posent. Maintenant, quand on n'a pas les réponses à certaines questions parfois, ça peut nous amener à diminuer dans la foi et à diminuer dans la vision du Seigneur. Donc on peut être limité dans notre façon de vivre avec le Seigneur. On peut limiter le Seigneur dans nos prières, et ce n'est pas bien pour un chrétien de traiter avec un Dieu limité. Il faut qu'il traite avec le Dieu infiniment puissant. Mais c'est vrai que ce verset de Jean 14, 12 bloque souvent beaucoup de chrétiens. Ils se disent, mais on ne voit pas. Alors, premièrement, nous n'avons pas la capacité de voir tout ce qui se passe chez les chrétiens. Ça, c'est premièrement. Donc, on ne peut pas, nous, en tant qu'humains, savoir tout ce qui arrive à tous ceux qui se confient en Jésus. Donc, il y a des gens qui expérimentent personnellement des choses extraordinaires qui ne sont pas mentionnées dans la Bible et qui accomplit Jean 14, 12. Il y a des gens qui expérimentent ça. Donc, maintenant, nous, en tant qu'humains, on n'a pas comme cette position panoramique qu'on a vis-à-vis de la Bible. On a la Bible là et on sait à peu près tout ce qui s'est passé. Maintenant, dans la vie actuelle, nous ne pouvons pas savoir tout ce qui se passe chez tous les chrétiens. Donc, on peut peut-être parler de nous-mêmes. Bon, posons-nous la question par rapport à nous-mêmes. Mais ça, c'était la première raison. Une autre raison, nous allons lire ça dans Matthieu 13, 58. Matthieu 13, 58. Matthieu 13, 58, il est écrit ceci. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Il s'agit de qui ? Il s'agit de Jésus. Hein. On peut lire à partir du verset 57. Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Voilà. Une des raisons qui font que aujourd'hui nous ne voyons pas Jean 14, 12 s'accomplir, c'est l'incrédulité. Aujourd'hui, les gens n'ont pas la même foi que autrefois. Tout simplement, l'un des paramètres, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, l'homme arrive à résoudre la plupart des problèmes qui peuvent lui arriver. Que ce soit la maladie, que ce soit l'eau. Vous savez, juste le fait que les gens, autrefois, ils avaient besoin qu'il pleuve pour avoir de l'eau, nous, on n'a plus ce besoin-là. Nous, on ouvre le robinet et on paye des factures. Tous ces paramètres-là créent une diminution de la dépendance vis-à-vis de Dieu. Et là où il n'y a plus de dépendance, on n'a plus besoin de foi. Et s'il n'y a pas des chrétiens qui ont de grandes aspirations, la plupart des chrétiens n'ont pas de foi. Parce qu'ils vivent comme les humains du monde. Ils ont l'eau dans le robinet, ils ont le salaire à la fin du mois, ils ont les soldes, ils ont des facilités dans le monde où il n'y a pas nécessité d'avoir besoin de Dieu. Ce qui fait que leur foi n'étant pas exercée tous les jours, comment pourrait-elle être exercée dans le monde spirituel ? C'est pas possible. Donc si les gens n'exercent pas leur foi, on se souvient du verset d'Hébreux 10, 38, le juste vivra par la foi. Donc si ta foi ne vit pas chaque jour, comment veux-tu faire les miracles ? Comment veux-tu expérimenter ces choses ? C'est bloqué. Oui, je laisse d'abord notre pasteur.
Par rapport à l'incrédulité, pasteur, souvent on a entendu, j'ai entendu certaines personnes dire ben, si la personne n'avait pas été guérie parce qu'elle n'avait pas la foi, elle était incrédule. Alors l'incrédulité vient de qui ? De la personne qui attend la guérison ou de la personne qui va imposer les mains ?
Alors il y a les deux. Il y a premièrement l'incrédulité de la personne, de nous les chrétiens. Donc dans notre vie de tous les jours, il n'y a pas une foi sérieuse qui fait qu'on puisse penser à guérir vraiment quelqu'un. Et quand souvent nous prions pour les guérisons, Nous prions dans un esprit religieux en se disant, le Seigneur a promis des guérisons, prions pour la guérison. Ce n'est pas vraiment dans cette intimité avec Dieu où nous avons une vraie foi. Mais deuxièmement, il y a l'incrédulité de la personne elle-même. Et troisièmement, j'ai oublié, il y avait trois possibilités, de l'atmosphère, dans l'atmosphère, donc dans du milieu. Ça compte. Parce que là, Jésus-Christ n'avait pas fait des miracles. Peut-être que ce n'est pas à cause des individus face à face, mais c'est vraiment parce que dans cet endroit-là, on ne croyait pas. Donc c'est tout un milieu, tout un endroit qui avait perdu la foi, qui n'avait pas la foi. Et cette atmosphère-là n'attirait pas les miracles. Il n'y avait pas une attente vis-à-vis de Dieu dans cet endroit-là. Et c'est ce que les trois comptent, que ce soit la foi de la personne qui prie, que ce soit la foi de la personne qui doit recevoir le miracle, que ce soit la foi de l'endroit. Maintenant, il y a toujours la souveraineté de Dieu. Dieu peut faire des miracles même là où il n'y a pas la foi, même quand la personne ne croit pas. Oui.
Il y a eu des épisodes où des grands évangélistes ont prié pour certaines personnes qui ont apparemment devant tout le monde eu la guérison. Et lorsque la personne est prête et repartie, ceux qui étaient guéris sont redevenus malades.
Oui, c'est pourquoi je dis qu'à notre époque, on ne voit pas, parce que sinon je citerai tout ce qu'on voit à la télé. La plupart des choses qu'on voit à la télé, c'est fait par des magiciens, ce n'est pas des vrais pasteurs. C'est des gens dont on sait aujourd'hui qu'ils utilisent la magie pour impressionner les gens. Donc ce n'est pas des vrais miracles. Parce qu'il y a eu des enquêtes qui ont été faites, qui ont montré qu'il y en a, on a suivi un journaliste américain qui a suivi un de ces évangélistes-là, après ses prétendues guérisons. Lui, il a suivi les gens qui étaient prétendument guéris. Dans leur maison, en réalité, ils n'étaient pas guéris. Donc, il y a beaucoup d'escroqueries. Donc, on ne cite pas ces cas-là. À la fin de ce point, nous citerons des cas de vrai réveil où on peut dire que ça fait des choses plus que quand du temps de Jésus. Donc là, je ne les cite pas encore. Je suis en train de donner les raisons qui font qu'aujourd'hui, on ne vit pas Jean 14, 12. Voilà, que l'on ne s'étonne pas de ne pas vivre Jean 14, 12. Oui.
Par rapport aux raisons que tu as données, tu expliques la perte de foi à cause de certaines facilités que nous, on peut avoir. Mais maintenant, comment manifester la foi? Parce que ces facilités-là, c'est quelque chose qu'on subit, ce n'est pas forcément quelque chose que nous...
Comment manifester la foi? Entrer dans la vision de Dieu. Par exemple, on a l'eau du robinet, on a tout ça, on a l'électricité, mais lorsque nous pensons aller évangéliser un coin qui n'est pas encore touché par l'évangile, là, ça nous crée une difficulté. En nous créant cette difficulté, ça nous oblige à être dépendants du Seigneur. Lorsqu'on pense à la conversion des voisins qu'on trouve méchants, ça nous crée une difficulté. Et ça nous impose de penser à Dieu en ce moment-là et de retrouver une vie de foi. Donc à chaque fois que nous nous obligeons à entrer dans la vision du Seigneur, dans les projets grands du Seigneur, ça nous crée une situation de faiblesse qui nous amène à la dépendance et qui restaure notre foi. Sans ça, notre foi est morte. C'est ainsi que nous vivons une époque où la foi est morte. Parce que, notamment dans les pays occidentaux, je veux dire, hein, dans certains pays du tiers-monde, la foi est encore vivante parce que les gens, chaque jour, ont besoin de Dieu pour vivre. Dans nos pays occidentaux, la foi se meurt. C'est pourquoi c'est difficile de vivre ces choses-là. Là, c'est la partie foi. Ensuite, on parlera de la partie usage. Oui.
Pasteur, je voudrais revenir à la question de Pasteur Davis. Tu as dit que c'est par rapport à la guérison de la personne, ça dépend des trois atmosphères. Donc la foi de la personne ou la personne, ou bien par rapport à la personne.
À l'endroit, par rapport à l'endroit,
tout ça. Et je voudrais savoir, par rapport à un apôtre de Jésus qui n'arrivait pas à guérir l'enfant qui était malade, et puis le Seigneur avait dit, jusqu'à quand je serai avec vous? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette situation? Est-ce que c'est l'environnement?
Non, Jésus avait bien expliqué que c'est pas... Il y avait un problème de foi.
Par rapport aux parents ou les...
Par rapport à l'apôtre, et à l'endroit. Au fait, tous ces gens-là, donc tout ce groupe-là, que ce soit les apôtres et les autres, avaient eu un problème de doute par rapport à ce cas-là.
Okay. Voilà. D'accord.
Donc c'est pourquoi Jésus a dit ça.
D'accord, ok.
C'est la même chose qu'il a dit quand il a pleuré, quand il a vu que les gens ne croyaient pas qu'il pouvait ressusciter Lazare. Il a pleuré, il a pleurait de voir la foi qui était morte. Quoi.
D'accord. Voilà. Okay.
Parce qu'il faut savoir que pour Dieu, guérir un malade ou résister à un mort, c'est comme nous, on peut allumer un interrupteur. Hein. On appuie sur l'interrupteur. Donc, ça doit l'énerver de voir que nous, on ne croit pas que ça peut se faire. Alors que c'est juste que lui, il appuie sur l'interrupteur. Donc, c'est cela qui fait qu'il n'est pas à l'aise là où il n'y a pas la foi. Oui.
Pasteur, est-ce que quand tu dis qu'on ne vit pas Jean 14, 12 par rapport à notre incrédulité, est-ce que ce n'est pas aussi par rapport au fait qu'il y a des pasteurs, justement, quand le Seigneur agit et qu'il accomplit des miracles dans une assemblée, que finalement le pasteur s'enorgueille et qu'il prend ça pour lui, quoi.
Ça, c'est le deuxième point. Donc, j'allais parler de l'usage. Donc, j'ai parlé d'abord de la foi, ensuite l'usage. Qu'est-ce qu'on en fait des miracles ? Voilà. Donc, nous sommes témoins, bien-aimés, du fait que le peu de miracles que nous avons expérimentés ou que nous avons vus n'ont pas amené les gens forcément à s'attacher au Seigneur. Ça les a amenés à faire des systèmes. Moi, je prends par exemple un mouvement chrétien qui a connu le parler en langue en grande quantité. Au lieu de bénir le Seigneur pour le parler en langue, ils ont fait de ça un système. Donc, un chrétien n'est vraiment chrétien que s'il parle en langue. Donc, quand Dieu voit des choses comme ça, il a du mal à agir. Parce que on fait de ces actes un système. Deuxième chose, les gens font du commerce avec la puissance du Seigneur. Quand le Seigneur voit qu'il y a du commerce, quand lui fait un miracle, après ce miracle est utilisé pour encenser l'homme et puis dire aux gens, venez, je vais vous donner des guérisons, vous aurez, mais en contrepartie, il faut payer l'argent. Mais Dieu ne va pas se laisser utiliser. Donc l'usage qu'on fait des miracles à notre époque empêche le Seigneur de continuer à agir. L'usage n'est pas bon. Donc ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc là, nous reprenons Ésaïe 59. Oui.
Oui, je voulais revenir. Je voulais revenir par rapport aux personnes pour qui on prie.
On va vérifier le micro. On va donner notre micro alors.
Aux personnes pour qui on prie et qui retombent malades. Est-ce que ça ne peut pas dépendre d'eux-mêmes? Des comportements, genre ils commettent des péchés par après, ils abandonnent le Seigneur, et alors qu'ils étaient vraiment réellement guéris.
Oui, mais non, si c'est après une semaine, ils tombent et retombent, c'est pas normal. On peut comprendre qu'après 6 mois, 8 mois, les démons reviennent parce que la personne a commis encore des péchés. On se souvient de ce que Jésus avait dit à la femme, la femme adultère de ne point pécher. Il avait dit à quelqu'un d'autre aussi qu'il avait guéri de ne pas pécher encore. Mais ça ne peut pas se faire après 3 jours ou 4 jours. Parce que ce que nous, on a vu, c'est des gens, 3 jours, 4 jours après, ils sont tombés malades. Et ils n'ont pas forcément fait des péchés graves en 3 jours, en 4 jours. Quoi. Voilà. Et ça, c'est... J'ai même entendu un faux prédicateur expliquer que le corps n'accepte pas encore la guérison. Donc, il faut laisser le corps accepter la guérison. Il y a conflit entre la guérison et le corps. Donc c'est du mensonge, quoi. Voilà. Donc l'usage, aujourd'hui, bien-aimé, la puissance de Dieu est utilisée pour le commerce. Est-ce que vous croyez que Dieu, dans ces conditions-là, va continuer toujours à faire des miracles? Non! Il est bloqué. Il attend que ce soit une période où on ne veuille plus faire du commerce avec ces miracles. Les miracles de Dieu contribuent à créer des systèmes. Donc Dieu ne va pas accepter. Donc tout ça, nous avons besoin d'une repentance générale dans cette église, comme Gédéon de son époque. Il dit, mais Seigneur, on ne voit plus les choses dont il est question dans les écrits, dont on entend parler. L'usage des miracles n'est pas correct. Et je peux aller encore loin dans l'usage. Il n'y a pas de reconnaissance aujourd'hui. Quelqu'un vit un miracle, bien-aimé, demain, il se comporte comme s'il ne vient pas de vivre un grand miracle. Il se comporte comme si le Seigneur était juste une connaissance, un collaborateur. Regardez quand Zachée, on lui a dit, Zachée, aujourd'hui je vais manger chez toi. Il n'y a pas de miracle là. Mais juste cet honneur que le Seigneur mange chez lui. Zachée dit, la moitié de mes biens je donne aux pauvres. Juste juste ça. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas le respect de Dieu aujourd'hui. On a visité une fois un malade à l'hôpital, puisque sa femme était prétendument chrétienne. Elle voulait qu'on passe. Et cet homme-là venait de l'extrême-orient. Il avait une maladie. Et ici, à Charles-Nicolle, ils ne trouvaient pas le moyen de le guérir. Ils ont envoyé ces prélèvements dans toute la France, à Marseille et à Paris, pour savoir c'était quoi la maladie. Parce que sa fièvre ne tombait pas. On est entré dans sa chambre. On lui a présenté l'évangile. On lui a demandé de se confier à Jésus. Ce que je n'aime pas, puisque je connais la période dans laquelle nous sommes, je l'ai fait quand même. On a prié pour sa guérison aussi. 2 jours après notre passage, déjà, dès que nous sommes partis, sa température a baissé. Et 2 jours après notre passage, il est sorti de l'hôpital. Mais cet homme n'a même jamais appelé, ni n'est jamais venu pour remercier Dieu d'une certaine manière. Non. Nous vivons une époque où les gens reçoivent la guérison comme ils la recevraient d'un magicien. C'est-à-dire qu'ils ont payé, ils reçoivent. Ou bien voilà. Il n'y a pas comme une sorte de reconnaissance de quelque chose de surnaturel qui vient de Dieu. Il n'y a pas ça. Alors que dans les époques dont il y a question où Dieu faisait des grandes choses, regardez quand il y avait miracle, ce qui se passait. Dans Luc 8, le démoniaque de Gadara, quand on l'a libéré des 5000 démons, il s'est attaché à Jésus. Il s'est attaché à lui. Quand est-ce que Jésus a pleuré dans Luc 17? Quand il a guéri 10 lépreux, un seul est venu. Un seul! Jésus a dit, ah! Mais les 9 autres là n'ont pas été guéris. Comment on vient de te guérir? Après tu vas te promener. Tu ne penses même pas à revenir vers la personne qui t'a guéri. Nous vivons un temps où il y a un manque de reconnaissance vis-à-vis de Dieu aberrant. À tel point que je dis que c'est parce que nous les humains, nous ne sommes pas Dieu. Parce que si c'était moi Dieu, j'allais fermer le robinet des miracles jusqu'au bout, vraiment, parce que c'est décevant ce qu'on vit par rapport à la reconnaissance de Dieu. Mais on se dit, bon, Dieu est plus bon que nous, mais il aime quand même les humains, malgré. Mais ne nous étonnons pas de voir qu'il y a comme une sorte de désert. Parce qu'il y a un manque de reconnaissance, parce qu'il faut, quand on est pasteur, c'est là qu'on vit cela, quoi. On dit, mais c'est pas possible. Comment Dieu agit? C'est pourquoi au début j'avais dit que nous ne voyons pas tout ce que Dieu fait. Parce que Dieu fait quand même. Discrètement, il fait des grandes choses. Mais il y a un manque de reconnaissance. Grave à notre époque. Pourquoi il y a ce manque de reconnaissance? Parce que vous savez, à l'époque, quand Dieu se manifeste à toi, mais c'est fini. Tu t'accroches à lui parce que tout le reste de ta vie dépend du surnaturel, que ce soit la pluie, que ce soit le soleil, tout ça, ça dépend de ça. Mais aujourd'hui, on a tellement de solutions dans nos vies pour tout, pour beaucoup de choses, et qu'il n'y a que peu de places où on attend que Dieu agisse. Même là où Dieu nous coinçait un peu le mariage, on a fait des sites de rencontres. Donc, il y a des solutions pour tout. Donc là où l'homme doit être coincé, on décoince. Ce qui fait qu'il n'y a que peu de places où on attend l'action de Dieu. Alors quand Dieu fait un miracle, puisqu'il y a, de toute façon, on a besoin de lui que dans peu d'endroits, bon, les humains ne sont plus reconnaissants. Et comment Dieu peut faire des miracles si ça ne glorifie pas le Seigneur? Parce qu'il a dit que le Saint-Esprit glorifiera Jésus. À quoi ça sert maintenant que le Saint-Esprit fasse des miracles si ça ne glorifie pas Jésus dans la vie des gens? Donc il y a un blocage. Il y a un blocage à cause de toutes ces raisons, oui. Il y avait des gens qui avaient levé la main.
Oui, je voudrais revenir à la question de Christian, pasteur. Est-ce par rapport à la guérison, si par exemple, il y a un pasteur ou quelqu'un guérit quelqu'un, après quelques temps, la maladie revient. Est-ce qu'on ne peut pas dire, par rapport à cette situation-là, c'est comme le marabout, comment il guérit les gens, il déplace en fait.
Oui, donc il y a des cas où, c'est ce qu'on a voulu dire indirectement, que c'est des fausses guérisons. Mmh. C'est ce qu'on a voulu dire. Mmh. C'est comme la magie, c'est des fausses guérisons, ce n'est pas des vraies guérisons. D'accord. Voilà. Okay. Mmh. Mais il peut se faire que certaines guérisons soient des délivrances. On chasse des démons et la personne est guérie. Si la personne va pécher, les démons reviennent.
Ils reviennent, voilà. Oui.
Voilà, donc c'est toutes ces raisons-là qui font que, bien aimé, aujourd'hui, Jean 14, 12, ne se vit pas. Parce que les conditions ne sont pas là. Je sais, il y a des gens qui veulent vivre le miracle pour se sentir bons chrétiens. Ils ne veulent pas vivre ça dans l'esprit de la gloire de Dieu. Mais c'est juste pour se sentir fort. Mais Dieu ne va rien faire. Parce que la force, ça ne nous appartient pas. C'est lui qui est fort. Nous, nous sommes que des instruments. Et le Seigneur ne peut pas être d'accord qu'on cherche les miracles juste pour qu'on reconnaisse qu'on est une bonne église. Non. Là, il ne va rien faire. Il veut faire des miracles pour glorifier son nom. Et il veut faire des miracles pour produire la foi à travers la prédication. Si les miracles ne servent pas à faire que la prédication produise la foi, il s'arrête. Parce qu'il est dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si la prédication ne produit plus la foi et que les gens sont en train de réclamer que les miracles, Dieu ne va pas faire. Et on se souvient, quand on a dit à Jésus de faire les miracles, il a dit, je n'en ferai pas. Le seul miracle que je ferai, c'est le miracle de Jonas. 3 jours, je serai dans le ventre de la terre et le 3e jour, j'en sortirai. Donc c'est ce qu'il a fait. Il n'a plus fait que le miracle de la résurrection. Il est obligé d'ailleurs de le faire, puisque c'était dans son plan. Mais cependant, il n'a pas fait les miracles comme les gens qui lui demandaient le miracle voulaient. Il n'a plus fait. Parce qu'il a compris que c'était pour blaguer, c'était pour s'amuser, c'était pour déranger, c'était pour parler, quoi. Mais voilà, quand l'usage n'est pas bon, Dieu n'agit pas. Donc aujourd'hui, l'usage qui est fait des miracles n'est pas du tout bon. Soit ils sont commercialisés, soit ils créent des systèmes, soit il n'y a aucune reconnaissance. Donc le but voulu par Dieu de voir sa grandeur et de s'incliner devant lui n'est pas du tout la logique des hommes. Les hommes sont devenus trop fiers. Ils ont beaucoup de choses sans Dieu et ils ne laissent que peu d'espace à Dieu dans leur vie. Et Dieu ne peut plus se glorifier, quoi. Il laisse les hommes se débrouiller, quoi. Et nous vivons ça au milieu de nous, les chrétiens, parce que beaucoup d'entre nous, nous profitons de la modernité et nous laissons tomber Dieu. Oui.
Une question, pasteur, que certains pourraient poser, c'est que si le Seigneur sait, par exemple, dans le cas des lépreux, que certains ne seraient pas revenus aussi pour manifester une certaine reconnaissance, pourquoi il le fait quand même, les miracles?
Pourquoi il le fait quand même? Parce qu'il veut montrer qu'il est quand même Dieu tout. Et que il veut nous dire qu'aujourd'hui, vous parlez beaucoup. Je ne fais pas, mais voilà, là, j'ai fait. Mais ça n'a produit aucun résultat. Moi, je le dis souvent aux chrétiens, quand ils sont déçus, parce que un tel a reçu les bienfaits du Seigneur, mais il n'a pas été reconnaissant. Moi, je dis, mais après, vous allez dire que Dieu n'agit pas. Dieu agit. Vous êtes témoin, là. Il a agi. Mais est-ce que regardez la conséquence. Après, vous allez dire, quand il n'agit pas, qu'il n'agit pas. Non, Dieu, il sait ce qu'il fait. Quand il n'agit pas, c'est que ça ne demande pas d'agir. Mais il y a des moments, il va agir quand même, malgré le fait qu'il sait que ça ne conduira pas forcément à ce qu'il veut, pour nous montrer réellement pourquoi il n'agit pas quand on s'y attend. Parce qu'on ne sait pas être reconnaissant. Oui, qui a le micro? Personne, ok. Voilà, il y a Franck qui veut...
En fait, c'est par rapport au verset 13, de plus, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié au sujet du Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Alors je me pose la question de savoir, lorsqu'on voit un pasteur prier pour l'imposition des malades, et que la personne n'est pas guérie, et qu'on en voit une fois, deux fois, trois fois, moi, ça a été toute mon enfance comme ça. Qu'est-ce qui se passe?
Ah oui, donc tu as assisté à tant de fois qu'on prie pour les malades, ils ne sont pas guéris, c'est
jamais.
Ça? Voilà. Et moi, je dis c'est ça.
Alors ça veut dire, non, ma question c'est, est-ce que ça veut dire que le pasteur, il faut quand même qu'il continue, qu'il persévère?
Je pense qu'en tant que pasteur, il faut qu'on discerne l'époque dans laquelle nous sommes. Moi, je pense qu'on est dans cette période-là où la foi a disparu. Nous devons réenseigner, réprêcher, et viendra un temps où Dieu nous donnera le feu vert de recommencer systématiquement à faire comme nos prédécesseurs, on le fera. Je crois que le travail à faire aujourd'hui, c'est un travail prophétique, comme dans le cas de Gédéon. Quand Gédéon, il pleure, il venait d'avoir un prophète qui a dit que c'est à cause de vos péchés que je vous ai laissé entre les mains de Madian. Et c'est là que l'ange est venu. Donc il y a eu d'abord un travail de redressement, de repentance du peuple. Et puis l'ange est venu voir Gédéon et puis la délivrance. Je crois qu'on est dans un temps où nous devons prêcher la repentance par rapport à nous tous. Nous avons quitté la foi, l'Église a quitté la foi, nous devons revenir à la foi. Et quand nous nous aurons suffisamment fait cette prédication-là, je crois qu'il y aura un temps où il y aura un déclic, le Seigneur va commencer à agir encore. Quoi. Voilà. Je crois que beaucoup de pasteurs n'ont pas compris qu'on était dans cette époque-là. Et ils continuent à vouloir, par système, à tout prix prier pour les gens, pour que les gens soient guéris. Non, le Seigneur ne veut pas forcément. Parce que lui-même, à un moment, il n'a pas guéri. On lui a dit de guérir, de faire, il a dit je ne fais plus de miracles. Parce qu'il a compris qu'il n'était plus dans cette période-là. Donc les conditions n'étaient pas réunies. Matthieu 13, 58 nous dit que à cause de l'incrédulité, il n'a pas fait de miracles à cet endroit-là. Donc les conditions n'étant pas réunies, Jean 14, 12 ne s'accomplit pas. Donc à nous de discerner l'époque dans laquelle nous sommes. Mais je sais que pour avoir vécu dans la région parisienne, donc par système, on voulait à tout prix obtenir ce qui est écrit, quoi. Pas pour se dire, ben tiens, le système fonctionne. Non. Il y a des conditions qui doivent être réunies. Si elles ne sont pas réunies, soyons attentifs, faisons comme les prophètes de l'Ancien Testament, faisons ce qu'il faut pour que Dieu revienne. Si Dieu n'est pas là, il ne faut pas forcer. Voilà.
Et j'avais une deuxième question par rapport à l'imposition des mains, justement. Est-ce que c'est quelque chose de biblique ou, parce qu'on ne voit pas que Jésus imposait les mains. Jésus, lui, il s'impliquait beaucoup plus. Il disait « lève-toi et marche » ou il faisait des choses, des actions même souvent très différentes. Même pour une même maladie, des fois il chassait un démon, des fois il guérissait. Quelque part, il n'était pas du tout dans le systématisme. Et surtout, j'ai l'impression que quand il guérissait, il s'engageait. C'est-à-dire que si ça ne marchait pas, c'était sa voix qui était en péril. Ce n'est pas pareil que de prier tout doucement comme ça, et puis bon, bah, on verra ce qui va arriver. Je ne sais pas si l'imposition des mains, en fin de compte...
Non, l'imposition des mains, telle qu'on la voit aujourd'hui, c'est ce que je veux dire, c'est devenu un système. Or, nous devions faire les choses parce que, soit la personne demande, comme l'apôtre, on nous dit, si quelqu'un est malade, il va voir les anciens, donc la personne demande. Ou alors, Dieu nous montre quelqu'un pour qui on doit prier. Comme Jésus, il était dans le temple, il y a une femme qui avait le dos courbé. À distance, Jésus lui parle. Voilà. Donc Jésus, comme tu dis, il s'engageait, il choisissait les gens. Mais après, il y a des guérisons qui se faisaient sans qu'il y ait son choix clair. Il y avait comme la grâce divine qui était à l'endroit. Donc les gens étaient libérés comme ça. Voilà. Comme les vêtements de Paul et l'ombre de Pierre. Ce n'est pas leur engagement. C'est Dieu qui est là, qui agit par son esprit. On ne peut pas contrôler ça. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a comme un système de vouloir prier obligatoirement pour les gens parce que Dieu a dit ceci, ça doit s'accomplir. Non, on ne peut pas obliger Dieu. Je crois qu'on doit avoir le flair spirituel pour comprendre le temps dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un temps où la foi a quitté la rue chrétienne et nous devons réinstaller la foi, nous devons réinstaller le respect de Dieu. L'esprit de reconnaissance. Comme on fait les trois jours d'adoration. C'est ça, cet objectif, de réinstaller le respect de Dieu, l'esprit de reconnaissance. Savoir qu'on est différent, il n'est pas notre ami, quoi, notre collaborateur, il est Dieu. Quoi. Même s'il y a des moments où il est notre collaborateur, notre ami, il reste Dieu. Il faut qu'il soit respecté. Donc on doit lui faire des choses qui dépassent ce qu'on pourrait faire à un homme normal. Voilà, c'est cela. On essaie de réinstaurer tout ça, la foi, par les prédications. Le sérieux et le respect de Dieu. Je crois qu'il y aura un jour où Dieu dira, bon, ça y est maintenant, je suis honoré, je peux maintenant agir. Quoi. Voilà. Oui.
Je voulais en profiter aussi pour répondre par rapport à ce qu'il a, par rapport à Franck, en fait, ce qu'il a dit, par rapport à la guérison, parce qu'il y a quelque chose dont on ne parle pas, il me paraît quand même très important, c'est par rapport au pardon. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont à la guérison, mais qui n'ont pas pardonné. Et dans la Bible, il dit que si un chrétien ne pardonne pas, le Père ne le pardonne pas non plus.
Voilà.
Et ce qui se passe, c'est qu'il n'est plus sous la grâce à ce moment-là. Donc s'il n'est plus sous la grâce, du coup, l'alliance, elle est comme, entre guillemets, cassée, puisque lui-même n'a pas, entre guillemets, fait le contrat. Donc du coup, ça, j'ai envie de dire, ça ne fonctionne plus, puisqu'on n'est plus sous la grâce. Donc on ne bénéficie plus de la guérison qui était, et du salut. Enfin, je veux dire, c'est quand même grave. Et ça, c'est quelque chose dont on parle très peu. Et il y a une autre chose aussi, c'est qu'il y a aussi des gens qui veulent être guéris, mais qui ne veulent pas abandonner. Par exemple, quand on est handicapé, surtout en France, on peut avoir des aides et on peut recevoir de l'argent. Et il y a des gens qui veulent être guéris, mais qui veulent quelque part conserver leurs aides. Donc ils vont en sachant qu'ils veulent garder leurs aides, alors qu'on le voit avec Bartimée, par exemple, où Jésus lui demande « Veux-tu être guéri ?» Parce que derrière, il y avait une action apparemment. On le voit à un moment donné, je crois que c'est lui qui donne son manteau, qui le met au sol. Quelque part, il renonce à cette protection. Et ça symbolise un peu ce que nous, on a actuellement, c'est-à-dire l'argent. Quoi. Oui, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas renoncer à ça aussi.
Oui, mais donc, là, Jésus lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Ça paraît une question bête. Un aveugle crie Jésus. Normalement, ce qu'il veut, c'est être recouvrer la vue. Mais Jésus dit, mais qu'est-ce que tu veux? Parce que voir, ça a des conséquences. Tu n'auras plus à mendier. Parce que la raison qui t'amène à mendier et à recevoir l'argent facilement, c'est le fait que tu es aveugle. Jésus dit, mais accepte toutes les conséquences. Si tu commences à voir, tu seras obligé de travailler. Et comme tu viens de le citer, beaucoup ne veulent pas trop que leur situation change parce qu'il y a les allocations. Donc handicapés, tout ça. Et je me souviens, même un serviteur a prié pour une dame. La dame avait mal. On dit, on va prier pour les guérisons, elle passe devant. Et elle pose la question au pasteur, est-ce que quand je serai guéri, mon kiné ne viendra plus? Il dit, mais oui, puisque tu seras guéri. Ah non, bon, on attend encore. Voilà. Donc, c'est pour dire que certains viennent demander cette guérison-là, mais à moitié. Voilà. Certains aujourd'hui disent, nous voulons les miracles. Mais les miracles, bien aimé, Dieu va te dire dans la nuit, il t'apparaît comme un ange. Je te veux en Chine. Mais beaucoup ne sont pas prêts à aller en Chine. Ils sont peuples. Donc, un ange peut t'apparaître la nuit. Je te veux au pôle Nord. Oh! Ou à Madagascar, vol 714. Madagascar. Oh. Mais bien aimé, c'est ça. On veut les miracles, mais on ne les veut pas réellement. Parce que les miracles, ça ne vient pas seulement juste miracle. Il y a tout un environnement. Donc Dieu fait des miracles, mais il nous amène aussi à une dimension de proximité avec lui. Ce n'est pas juste faire le miracle. Et c'est pourquoi nous ne vivons pas les miracles. Parce qu'en réalité, nous n'en voulons pas. En réalité, nous voulons être épatés par des guérisons, par des trucs extraordinaires, comme on regarde à la télé. Mais on ne veut pas, parce que le miracle, c'est toute une dimension de proximité, de gloire de Dieu, qui va nous faire franchir des barrières extraordinaires. Voilà, donc c'est ça qui bloque tout. Quoi.
Parce que quand même, pasteur, au niveau de la Bible, il y a... Parce que souvent, on nous cite le cas de... Je crois de Paul qui avait une écharpe dans la chair en nous disant que, bon, quelque part, on est censé, entre guillemets, vivre avec le mal. Mais on se rend compte quand même qu'il n'y a qu'un verset, et que là, il y a énormément de versets qui sont quand même en faveur de la guérison. On a en Exode, quand il dit « Je suis l'Éternel qui te guérit », on a Ésaïe 53:6 qui dit que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Enfin, il y a quand même pas mal de passages. On voit aussi quand Jésus... quand Paul parle et demande aux anciens d'imposer les mains aux malades et de faire l'onction d'huile, enfin, il y a quand même une volonté de Dieu.
Mais oui, mais ce n'est pas un amusement. Mais c'est comme on dit, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Mais ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une caisse où on vient prendre les guérisons. Il y a toute une relation à voir avec lui, il y a toute une dimension à voir. Et c'est important. On voit avec Jackie Poulinger, une fille de 23 ans qui arrive à Hong Kong, elle a entendu la voix de Dieu à Londres qui lui dit « Va !» Elle est partie voir un pasteur, mais Dieu m'a dit d'aller. Je fais quoi? Le pasteur lui dit « Mais tu prends, tu vas ?» Parce qu'elle attendait une autre voix pour lui dire « Où ?» Le pasteur dit « On n'entend pas dit où ? » On y va. Donc elle a pris le billet le plus long. À l'époque, c'était les bateaux. Elle a pris le billet de bateau le plus long, donc jusqu'en extrême Chine. Et arrivée à Hong Kong, à cette station-là, la voix lui dit « Maintenant, tu sors. » Ah, donc, elle est sortie. Une fille de 23 ans allait travailler dans ce qu'on appelle la cité interdite, c'est-à-dire la cité des plus grands voyous. Mais personne ne l'a jamais touchée, ni violée, ni tapée. Mais pendant 2 ans, aucune conversion. Dieu vérifie qu'est-ce que nous voulons réellement. 2 ans, aucune conversion. Elle était limitée à organiser des matchs de ping-pong, des repas, parce que personne n'écoutait l'évangile. Mais elle voulait beaucoup. Mais après 2 ans, Dieu a déversé une telle puissance que même les grands mafieux se convertissaient, les prostituées se convertissaient. Et dès que quelqu'un se convertissait, il parlait en langue. Mais pourquoi? Il faut comprendre. Pourquoi? Parce que dans ce lieu-là, tout le monde était dans l'héroïne. Et donc le parler en langue permettait que, quand la crise d'héroïne venait, Il priait en langue et puis ça partait. Et donc, mais elle n'en a pas fait un système. Donc, quand vous lisez son histoire, vous vous rendez compte que Dieu agit là où il y a la foi, là où il y a une attente. Là où on est devenu stérile, on a nos propres sources, Dieu ne peut pas agir. Il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de projet pour Dieu. On veut juste voir les miracles comme ça. Mais il faut savoir que ces miracles peuvent t'amener à dire démissionne de ton travail. Est-ce que tu vas démissionner? Voilà, donc c'est le miracle, ce n'est pas juste la guérison. Le miracle, c'est la puissance de Dieu qui a amené les gens à... Souvent, moi, j'ai répondu aux gens qui disaient, mais pasteur, on ne voit pas les miracles. Moi, je dis, je ne vois pas les gens vendre leur maison, déposer au pied des apôtres. Bon, match nul. Voilà, oui. OK.
Oui. Est-ce que ça ne peut pas être lié à la notion de temps qui... Dieu n'a pas encore jugé opportun le temps de guérison. La personne peut avoir vraiment la foi, la personne qui prie pour le malade et le malade aussi.
Mais c'est des cas exceptionnels comme ça. Ça, c'est des cas exceptionnels. Comme le frère vient de nous dire, il y a beaucoup plus de versets qui nous montrent que Dieu veut vraiment guérir. Maintenant, il y a des cas exceptionnels, comme le cas de Paul, où on peut parfois ne pas voir la guérison pour des raisons concernant Dieu. Mais en général, Dieu veut guérir. Mais si on ne vit pas ça, c'est à cause du fait que les conditions dans le milieu chrétien ne sont pas réunies. Il y a un amusement par rapport au miracle, il y a une négligence par rapport à Dieu. Or, les miracles vont avec la gloire de Dieu. Ça marche ensemble. Ce n'est pas quelque chose qui est séparé de la gloire de Dieu. Oui ?
Tu avais un peu répondu à ma réflexion. En fait, je me disais, mais pour vivre un miracle, il faut quand même une situation difficile. Et actuellement, beaucoup de chrétiens, enfin les chrétiens ne veulent pas de situation difficile. Dès qu'il y a une épreuve, même dans nos vies personnelles, déjà on commence à vouloir murmurer et tout. Donc est-ce que c'est pas aussi lié à ça, le fait qu'il n'y ait pas de miracle? Parce que si nous-mêmes, les enfants de Dieu, quand Dieu permet effectivement des situations difficiles pour pouvoir faire des miracles dans nos vies, on n'a déjà pas une bonne attitude, comment peut-il effectivement faire les miracles quoi, en fait?
Oui, oui, donc on revient au respect, il n'y a pas le respect. Donc Job avait, à un moment donné, Job a commencé à manquer de respect à Dieu. Donc nous connaissons la réponse de Dieu dans Job 40, quand il dit, mais ce n'est pas toi qui as créé l'hippopotame, ce n'est pas toi qui as fait le crocodile, c'est moi qui ai fait ces animaux extraordinaires. Attention Job, je suis le Dieu vivant, quoi, voilà. Donc, il n'y a pas de respect vis-à-vis de Dieu. Et Dieu ne peut pas faire les choses. Il est écrit dans Jacques 1, 20, la colère de l'homme ne fait pas la justice de Dieu. Donc, quand Dieu veut qu'on voit qu'on veut le miracle par colère, ben, il ne va pas forcément céder. Hein. Il y a des moments où il va céder, mais pas toujours. Oui.
Pasteur, toi, tu dis il ne faut pas prier dès qu'on a un truc, une maladie. Dès qu'on est malade, il ne faut pas prier tout le temps pour la guérison.
Si, on doit prier.
Oui, mais tu dis il ne faut pas...
Non. On a dit le système des pasteurs d'aller faire des prières générales pour les gens. Donc, parce que peut-être tu ne les as pas vécues au milieu de nous. Autrefois, on faisait ça. On faisait avancer tous les malades, on faisait des prières générales pour les gens. C'est ça qu'on dit que ça, c'est un système. Jésus, lui, se dirigeait vers une personne et il priait pour la personne. Voilà. Et quand il y avait beaucoup de malades qui venaient, ils venaient tout seuls. C'est pas lui qui disait « venez les malades ». Ils venaient tout seuls, ils étaient malades, et ils demandaient la prière, ils demandaient pour leurs problèmes, et ils les guérissaient. Voilà. Maintenant, si quelqu'un n'a pas demandé, nous on fait... Alors qu'il y a des gens, comme le frère a dit, ils n'ont pas pardonné, ils ont des problèmes de cœur avec d'autres personnes, il y en a qui sont dans le péché, donc on va prier généralement pour tout le monde, alors que, voilà, il y en a qui... C'est normal qu'on trouve qu'on ne voit pas beaucoup de guérisons. Voilà. Oui, la sœur et puis Franck. Oui, vas-y.
En fait, je pensais un truc, je me disais que... En fait, les chrétiens, on cherche plus la main de Dieu au lieu de chercher sa face. Parce que quand on se rapproche vraiment de Dieu, et bah, la guérison, elle vient seule, quoi. Parce que la lumière de Dieu nous éclaire.
C'est la vérité. Hein. Donc aujourd'hui, les miracles, bon, c'est juste on veut comme une sorte de banque, ouais. Sorte d'hôpital. Mmh. C'est pas normal. Ouais. Or, Dieu veut être dans une relation. quand Jésus faisait les miracles, on disait que la crainte s'emparait des gens tout autour. Donc il y a un respect qui augmentait sur Dieu. Et aujourd'hui, c'est devenu comme un moyen de mesurer les serviteurs de Dieu, de mesurer une église. Dieu ne peut pas se laisser avoir par tout ça. Quoi. Oui, Franck? Ah non, ok.
Oui, pasteur, moi je voulais savoir, par exemple, quand on prend le cas, parce que là on parle du système, mais vu du côté des serviteurs de Dieu. Moi, je vois le système maintenant du côté des païens, parce que beaucoup de païens, même si ils refutent l'idée de Dieu, savent quand même que Dieu existe et ils savent bien se rapprocher des serviteurs de Dieu quand ils ont des problèmes. Donc, je prends le cas d'un païen qui va venir voir un frère, un pasteur ou autre, lui dire « Bon, ben, j'ai des problèmes, voilà ce qui m'arrive, hein, j'aimerais bien qu'on prie pour moi. » Donc on prie pour lui, finalement il a la solution à son problème et puis bon, il ne se répond pas, il ne donne pas sa vie au Seigneur, il se barre quoi. Et quand ça va se passer à nouveau mal, il revient. Est-ce que pour lui finalement, parce que lui finalement il en fait un système de venir voir le pasteur seulement quand il a des problèmes, est-ce qu'on va continuer comme ça tout le temps à l'exhorter, à continuer à prier pour lui ou finalement on lui dira un jour que non, bon c'est bon là parce que ce n'est pas un système que quand ça ne va pas pour toi que tu viennes me voir
Non, mais même, il faut même le dire dès le départ, hein. Que c'est pas un système. Le plus important, c'est de connaître Dieu. Quand tu as Dieu tout le temps, tu as la guérison tout le temps. Alors que là, tu peux avoir ta solution. On se souvient de ce que Jésus avait dit aux lépreux qui étaient revenus. Il a dit, maintenant, toi, tu es sauvé. Donc, les 9 autres, ils étaient guéris de la lèpre, mais ils n'étaient pas sauvés. Mais celui qui est revenu était sauvé. Le plus important, c'est d'être sauvé. Ce n'est pas être guéri de la lèpre, quoi. Donc, ça, il faut qu'on explique ça aux gens. Oui.
Oui, je me demandais, est-ce que le fait de parler de guérison quand on parle des œuvres que Jésus, quand il dit les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi, est-ce que la guérison, il ne parlait pas aussi, enfin, pourquoi on parlerait que de la guérison physique et pas de la guérison avant tout spirituelle, quand il dit que vous serez guéri par mes meurtrissures, etc. Et peut-être que nous aussi, on a tendance à... C'est vrai qu'il y a un manque de foi, ce qui fait qu'il y a moins de guérison, mais en même temps, il y a des cas aussi où il peut y avoir la maladie, pas de guérison, même si la foi est là, parce que Dieu aussi, il a un autre plan.
Un autre plan.
Donc, est-ce que...
Je suis d'accord, oui.
Alors voilà, c'est pour ça. Donc ma question, c'était, par rapport aux œuvres que Jésus a dit qu'on ferait aussi, est-ce que on englobe que la guérison dedans ou est-ce qu'il y a aussi l'autorité
sur les démons, sur la nature, il y a tout ça dedans, les conversions aussi.
Voilà, parce qu'en fait là on est en train d'axer sur la guérison, donc c'est pour ça que je me posais cette question. Est-ce que les œuvres c'est que
dans tout, c'est les conversions, le nombre de conversions, les guérisons, les miracles sur la nature, voilà, l'autorité dans la parole, la prédication. Tout ça, voilà, ça fait partie des œuvres qu'il a dit qu'on fera plus que lui.
Mm-hmm. Alors, du coup, en fait, je me dis qu'on voit quand même pas mal de miracles quand on voit les conversions. Ça, c'est un miracle. Quand on voit comment les gens sont délivrés des démons, bon, on voit quand même aussi des guérisons de maladies.
Oui, mais c'est ce que j'ai dit au début en introduction. J'ai dit, déjà, on en voit, mais comme nous ne sommes pas Dieu, nous ne pouvons pas voir tout ce qui se passe. Déjà, il y en a, mais on doit relever quand même les points qui font qu'on n'en voit pas d'une manière massive qui impressionnerait notre regard comme ça nous impressionne quand on lit la Bible. D'ailleurs, même quand on parle de miracles, quand on lit l'histoire des gens comme Élisée et Élie, Jésus lui-même dit qu'en Israël, il y avait beaucoup de lépreux, mais Élisée n'a guéri aucun. Il a guéri seulement les généraux syriens. C'est-à-dire, parfois, nous, quand nous lisons, nous pensons que à chaque fois, Élisée vivait et guérissait les lépreux. Non, il n'en a guéri qu'un seul. Voilà. C'est nous, on lit d'une manière panoramique, on a l'impression que nous, on n'en vit rien du tout. Non, on vit des choses, sauf que il y a le fait qu'on n'est pas Dieu, on ne peut pas tout voir en même temps, mais il y a aussi le côté massif qui ne se manifeste pas à cause de tout ce qu'on cite comme raison, quoi. Il y a le côté massif qui se manifeste. Mais on vit des choses d'une manière isolée. Il y a des chrétiens qui vivent des grandes choses. Mais le côté massif, ce n'est pas visible à cause de tout ce que nous citons là. Comme je dis par exemple concernant Jackie Poulinger, dès que le moment était arrivé, dès que quelqu'un s'est converti, il parlait la langue. Donc c'était massif. Donc c'était systématique. Quelqu'un s'est converti par la langue. Qui convertit par la langue. C'était systématique. Voilà. Mais donc au début, elle n'a pas vu ça. Donc c'est ça qu'on dit aujourd'hui. Mais on vit quand même d'une manière ponctuelle des grandes choses. Ça, c'est clair. Oui, Trésor. Non, Franck, oui.
Oui, en fait, dans la même lignée. C'est bon. Moi, je pensais justement au film que tu nous avais fait voir sur la Bible, sur la diffusion de la Bible, où on voyait...
C'est le Kimial.
Ouais, sûrement.
Oui, oui. La tribu avec l'avion, là.
Voilà. Voilà. Et là, moi, je me dis ça, c'est un miracle. C'est une œuvre qui a été faite pour la gloire de Dieu et que Jésus n'a pas faite. Et qui, en fait, dans tout ce que les apôtres ont fait, diffuser l'évangile...
À ce niveau-là, quoi, traduire dans cette langue-là, ouais. C'est une grande œuvre.
Et ça, c'est une grande œuvre.
Ah, voilà.
Et peut-être que ce n'est pas forcément très mystique, on va dire, ou quelque chose comme ça qui fait...
Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Mais c'est une grande œuvre. Donc, il faut déjà qu'on change notre regard des grandes œuvres, comme la sœur a voulu aussi souligner. Ce n'est pas seulement la guérison, c'est le fait que l'évangile arrive dans une tribu qui est non atteinte et traduit en cette langue-là. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a sacrifié sa vie pour vivre avec ces gens-là et puis traduire la Bible. Ça, c'est une grande œuvre. Voilà. Et on le vit d'une manière ponctuelle. Oui.
Oui, je voulais intervenir par rapport à des campagnes de guérison. Parce que le plus souvent dans le milieu chrétien, on remarque souvent qu'il y a des campagnes de guérison. Maintenant, quel conseil que tu peux nous donner aux chrétiens par rapport à toutes ces campagnes-là, quelle position en fait on doit prendre? Parce que quand on se dit qu'on se limite à la parole de Dieu et qu'on ne veut pas aller de gauche à droite à participer à ces campagnes, on nous traite comme si on était des chrétiens très très spirituels ou... Donc, on voulait nous mettre de côté parce qu'on ne veut pas participer aux campagnes dans d'autres assemblées et tout. Mais on voit maintenant, au contraire, moins de campagnes d'évangélisation. Mais beaucoup plus de campagnes de
guérison, oui, parce de guérison. Que ça attire l'argent. C'est parce que les gens vont amener les offrandes. Donc, ce sont des systèmes qui ne sont pas bibliques. Je peux vous dire que même si vous êtes logé dans un village... au fin fond de l'Afrique, si vous commencez à ressusciter les morts, à guérir les malades, vous allez voir des Français aller là-bas. Vous allez voir des Américains aller là-bas. Vous n'aurez même pas parlé. Essayez, qu'il y ait un aveugle qui voit. Même si c'est au fin fond de la Chine, un aveugle voit. Un mort ressuscite. Là, vous allez voir des gens aller là-bas. Donc, on n'a pas besoin de faire des pancartes, des grands panneaux pour dire que venez recevoir la guérison. Si vous guérissez vraiment réellement les gens, vous allez voir la masse des gens qui vont venir. Il y a plein de voyants que nous, on ne connaît pas ici. Par exemple, un voyant était en Normandie, il s'appelait Royer. Mais la plupart des chrétiens ici ne le connaissent pas. La plupart des Français ne le connaissent pas. Mais il y avait des ministres qui allaient là-bas, des députés. Donc, en Normandie ici, il est déjà mort. Je crois il y a 2 ans. Mais c'est tous les gens du pouvoir qui allaient là-bas. Mais qui savait ça? Donc quand vous avez un pouvoir, les gens viendront. Donc quand on fait des pancartes, souvent parce qu'il n'y a pas de pouvoir. Souvent, il n'y a pas de puissance. Quand quelqu'un fait vraiment les choses, il ne fait pas de pub. C'est de bouche à oreille, les gens viennent pour ça. C'est cela. Donc ce système-là de faire des pancartes, venez, guérison, ce n'est pas de Dieu. C'est le marketing commercial, hein. Donc on ne doit pas céder à ça. Si on a vraiment la puissance, les gens viendront. Quoi. On n'a pas besoin de faire des pancartes. Voilà. Donc je clôture ce sujet en disant que nous avons quand même des exemples à notre génération où les choses se passent comme Jean 14, 12 le prédit. Donc on vient nous citer l'histoire de Kimial. Mais je veux vous citer ce qui s'est passé en Indonésie. Et donc dans un livre, c'est écrit dans un livre comme un souffle violent avec Mel Tari et les autres. Le Seigneur a fait des grandes choses là-bas, au point qu'un jour il devait traverser une rivière et les crocodiles sont venus surprendre les chrétiens. Les chrétiens ont donné les ordres aux crocodiles de faire demi-tour. Donc, il paraît que le crocodile a un tout petit cerveau, il ne comprend pas. mais il a compris l'ordre des chrétiens. Ils ont fait demi-tour, les chrétiens continuent leur campagne. Ils ont entendu une musique qui venait du ciel, ils ont enregistré ça. Vous comprenez, ce n'est pas une musique que tu entends dans ton cœur. C'est tout le monde entend et ça s'est enregistré. Voilà, c'est pour vous dire que Dieu a fait des grandes choses dans cette église-là. Les enfants de 9 ans, pendant le culte, ils allaient voir les adultes pour leur dire leurs péchés et leur demander de se confesser. Voilà. Donc, il y a un jour, ils sont arrivés dans un village composé que de féticheurs. Donc, le village des magiciens. Et ils ont prêché l'évangile, les gens n'ont pas voulu. Et ils ont dit, bon, réunissez tous les villages, on se retrouve au centre du village. Ils ont réuni tout le village, ils se sont retrouvés au centre. Les chrétiens, ils étaient debout, ils ont dit, au nom de Jésus, nous commandons à tous les démons qui sont dans ce village de s'en aller. Et puis, ils ont commencé à chanter, et puis ils se sont assis, ils attendaient. Vous savez, les vrais, ceux qui ont la puissance, hein, ils n'ont pas sauté, ils n'ont pas tourné comme on voit. Non, ils ont dit, on demande aux démons qui sont là de s'en aller. Bon, après ils se sont assis, ils chantaient, ils attendaient. 5 minutes après, le chef du village commence à transpirer. Il dit, je veux devenir chrétien. Eux-mêmes, ils disent, vous savez, les vrais chrétiens, ils ne se précipitent pas. Ils disent, mais pourquoi toi tu veux devenir chrétien? Parce que quand vous avez donné l'ordre, j'ai vu les démons dire, Jésus ne veut pas de nous ici, allons-nous-en. Ils ont fui, je les ai vus tous partir. Alors moi, je vais prendre votre Dieu. Donc, ils ont fait des grandes choses en Indonésie. Donc, ça existe. Et en Chine, il y a des exemples de miracles extraordinaires conformément à Jean 14, 12. On connaît notre frère Yun, qui était emprisonné comme Pierre. On avait cassé même ses chevilles. Le Seigneur l'a levé. Et quand il avançait devant un portail, le portail s'ouvrait. Et les gardes le regardaient. Il est sorti. Et le temps que les policiers le cherchent, il était déjà en Allemagne. Donc Dieu a fait que quelqu'un lui donne un passeport et puis on l'a exfiltré, il était en Allemagne. Mais il est sorti de prison comme Pierre est sorti, les anges ouvrant le chemin. Donc il y a des choses que Dieu fait là où les conditions sont réunies. Là où les conditions ne sont pas réunies, il ne fait pas. Donc travaillons pour réunir les conditions et Dieu agira. Il est fidèle, Jean 14, 12, c'est la vérité. Mais si nous ne vivons pas cela, on a un problème par rapport aux conditions. Il n'y a plus le respect de Dieu, il n'y a plus la foi, il n'y a plus la logique du pardon, de comprendre que c'est une... de chercher une vraie, comme notre sœur a dit, de chercher Dieu et non pas juste sa main, quoi. Donc, il faut qu'on cherche Dieu lui-même. Et quand nous rentrerons dans tout cela, le Seigneur, d'une manière massive aussi, fera pour glorifier son nom. Voilà un deuxième point. Ah oui, c'est pas fini. Derrière, oui. Ado.
Moi, ma question, elle est par rapport à toutes ces personnes qui vont à Lourdes. J'ai suivi un documentaire à la télé où on a parlé des personnes qui sont parties chercher la guérison et qui ont été guéries jusqu'à aujourd'hui. Donc j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que... Voilà.
Ah, d'accord. Oui. Nous lisons dans Matthieu 24, 24. Matthieu 24, 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc, qu'il y ait des miracles en dehors de Dieu, ça n'a jamais été écarté par la Bible. Sauf que c'est des miracles comme qui ne s'occupent que de la chair et qui ne vont pas sauver réellement la personne. Et le diable, comme il est mauvais, il te donne aujourd'hui, un jour ou l'autre, il va réclamer, il redemandera. Maintenant, comme on l'a dit au début, on n'est pas Dieu pour savoir la fin réelle de ces gens-là. Ils finissent mal. Nous, on en a connu certains qui ont eu à vivre des miracles des faux prophètes, Mais ces gens-là, ils ont fini par servir le diable, d'une manière ou d'une autre, puisqu'ils ont la sémence du diable en eux. Donc que le diable fasse des guérisons, c'est possible. D'ailleurs, j'ai eu une discussion hier avec quelqu'un qui me disait mais les apparitions, tout ça. Moi, je dis, mais les apparitions, tout le monde en fait. Et si on doit juger que Dieu est avec nous parce qu'on a eu des apparitions, donc ça veut dire que bon, les gens qui regardent la télé un peu, c'est des apparitions aussi, donc Dieu est là-bas. Non, c'est écrit dans la parole, le diable fera des miracles. Il fera des apparitions, il fera ces choses-là. Mais la vérité, c'est Jésus. C'est ça la différence. La vérité, c'est la Bible. Et là, oui, en général, il n'y a pas de miracle à Lourdes. Mais s'il y en a, donc c'est le diable qui agit pour amener les gens toujours dans l'erreur. Ouais.
Moi, c'est pour revenir par rapport au miracle qu'il y a à Lourdes. J'ai toujours été dubitative là-dessus parce que même les prêtres catholiques, eux-mêmes, ils mettent un temps fou à croire à ce miracle-là parce qu'il faut l'authentifier, il faut ci, il faut ça. Donc je pense que c'est n'importe quoi parce que si c'était vraiment des gens qui avaient le Seigneur en eux, ils ne douteraient pas d'un miracle de Dieu, quoi. Parce que même les prêtres catholiques, ils en doutent. Quand on annonce un miracle à Lourdes, ils ne sont pas toujours d'accord. Il faut l'authentifier, il faut attendre que le Vatican authentifie ce miracle-là. Et puis des fois, ça prend des années et des années, quoi.
Oui, 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 oui.
Est-ce que c'est possible que dans d'autres religions, ils puissent chasser des démons?
J'ai pas entendu ce que tu as dit.
Est-ce que c'est possible que dans d'autres religions, ils peuvent chasser les démons?
Est-ce que c'est possible dans d'autres religions qu'on puisse chasser les démons? Maintenant, on ne peut pas appeler ça chasser d'une manière absolue. C'est une entente. C'est entre eux, ils s'entendent. Bon, tu quittes pendant un temps, tu vas dans la jambe. Tu quittes la tête, tu vas dans la jambe. Et la personne a l'impression d'être libérée. Mais en réalité, elle est liée davantage. Donc, on le fait dans d'autres religions. Ils appellent ça, chez les catholiques, les exorcismes. Les musulmans aussi font des genres de délivrance. Mais, en réalité, l'esprit ne part pas. L'esprit se déplace. C'est une entente, quoi. Comme les magiciens aussi le font, les voyants. Mais ce n'est pas une délivrance. Parce que les démons ne quittent pas la personne. Mais ils s'arrêtent d'agir pour donner l'impression que le monsieur a chassé. Voilà.
Oui, mais s'ils s'arrêtent d'agir, enfin,
ils s'arrêtent d'agir pendant un temps, c'est tout, ils vont recommencer après. C'est pourquoi ces gens-là consultent ces gens-là toute leur vie. Okay. Voilà, les gens qui vont voir les voyants, c'est toute leur vie. Okay. Oui. Oui, vas-y, Mathieu.
Oui, mais tu vois, des fois, il y a des... Quand les catholiques, là, ils prennent les...
le crucifix.
Non.
Quand ils prennent quoi, l'hostie?
Non, moi j'avais vu déjà une fois, il y avait un monsieur comme ça, il faisait l'exorcisme, et puis il prenait des statues. Enfin, Marie, il avait plein de genre des anges bizarres là.
Et ces anges-là chassaient les démons?
Non, mais tu sais, quand il fait l'exorcisme, après, par exemple, il y a le. Je sais pas, la fille était posée bizarre, et puis quand il parle après, elle bouge, comme les gens font les délivrances. Et quand il dit que les statues, là, ça le protège. Oui, quand il y a ça, ça marche.
Mais imagine qu'il y ait le feu. Lui, il va fuir, mais les statues vont être brûlées. Comment les statues peuvent le protéger?
Non, mais je ne sais pas, eux, il y a des gens qui disent ça, enfin, ceux qui font exorcisme. À chaque fois,
non, mais c'est faux, bien sûr. Comment les statues peuvent te protéger? Elles qui ne peuvent pas parler, ni marcher, ni. Voilà. Elles vont te protéger comment? C'est des esprits mauvais en réalité.
Oui, mais pourquoi le truc il s'arrête? En fait, c'est quoi la...
Pourquoi les démons ils s'arrêtent?
Oui, c'est quoi l'intérêt qui stoppe, enfin...
L'intérêt que les démons stoppent?
Oui.
Pour que les gens continuent, croient à la fausseté du catholicisme.
Oui, c'est vrai.
Voilà, c'est ça l'intérêt. C'est le même monde. Le même monde. Ok.
Moi, je voudrais répondre à la question à Edo qui disait que comment ça se fait que ces gens ils viennent à Lourdes pour être guéris. Moi, je pense, hein, c'est que ma pensée. Après, je suis qu'un homme, je peux me tromper. Mais je pense que quand on regarde dans l'Ancien Testament, il y avait une piscine, il y avait un ange qui descendait, qui bougeait l'eau, Et les gens qui étaient d'une maladie quelconque, qui réussissaient à sauter dans l'eau, pouvaient être guéris. Mais pour cela, Dieu est grand, il peut utiliser cela pour justement que ces gens se tournent vers Dieu et disent « Ah oui, Dieu existe, Dieu est grand » et ils se convertissent.
Ah oui, mais c'est quand même le Dieu d'Israël, là, mon frère.
Eh oui.
Là, ça, c'est pas le Dieu d'Israël, à l'autre.
Ah non, non, mais je veux dire, par là, Dieu est grand, Dieu est...
Ah oui, Dieu est grand, mais il ne va pas donner son honneur à quelqu'un d'autre.
Ah ben non,
42:8.
Bien sûr.
Il dit « Je ne donnerai ma gloire à personne ».
Bien sûr.
Là, il donne sa gloire au catholicisme.
Mais nous, notre esprit est trop... il est capable de faire ça pour lui, pas pour les gens qui sont là pour... Il peut envoyer et pour que cet homme-là, il voit, il dit « Ah oui, Dieu, là, oui, c'est vraiment... »
Sauf que cet homme-là répare avec une statue de Marie avec de l'eau dedans.
Ah ben non, ben non.
Voilà, donc je ne pense pas que Dieu va servir le diable maintenant. Donc non, je crois que Dieu peut guérir en dehors d'un circuit chrétien, c'est vrai, mais là, le système de Lourdes, c'est un système clairement satanique. C'est comme si tu me disais que chez un voyant, Dieu se sert du voyant pour guérir quelqu'un parce qu'il veut que la personne se tourne vers lui. Non, ça, c'est pas la même chose. Je crois que il y a des païens sans connaître Dieu qui peuvent crier au secours, Dieu les aider. Mmh. Oui, d'accord.
Tout à fait,
mais un système carrément construit d'une manière diabolique, Dieu ne peut pas faire des choses à travers ce système-là, quoi.
Ok.
Voilà. Voilà. Donc, un autre point, oui, Damien.
Pasteur, pourquoi cette apparition-là des Lourdes appartient aux catholiques? Donc, ils se sont accaparés de ça ou bien c'est...
Non, mais parce
pourquoi
que
c'est à eux.
Oui, parce que c'est l'apparition de Marie. Marie, c'est le catholicisme.
Ah, d'accord.
C'est normal.
Ah, ok.
Mais il n'y a pas que Lourdes. Il y a... À chaque fois que vous entendez un mot là, Notre-Dame de, sachez qu'il y a eu une apparition là. Notre-Dame de Fatima. Ça veut dire qu'il y a eu une apparition là. Donc à chaque fois que vous entendez Notre-Dame de quelque chose, donc il y a eu une apparition là. Donc après, on consacre ce lieu là, ça devient un lieu spécial. Mais bien sûr, c'est des apparitions des démons. Voilà. Ok. Mathieu, et puis...
J'ai deux questions. Mais je crois que tu as déjà répondu. Mais toutes les Maries, là, qui, par exemple, la dame qui avait vu à Lourdes Marie, ça, c'était vraiment... Parce qu'elle avait vu, genre, elle se déplaçait et tout. C'était vraiment un démon.
Ah oui, c'était vraiment un démon. Hein.
Ça peut pas être dans la tête.
C'est possible que ce soit dans la tête.
Ah ouais, et comment...
Mais tout est possible, quand même.
Mais
l'influence que ça a donnée, c'était un démon, en tout cas.
Le démon, ce qu'il dit, comment il fait pour savoir c'est Marie? Il peut parler?
Non, mais comment la dame a su que c'était Marie?
Ouais.
Mais il y a une pensée qui te dit que c'est Marie. Oui, donc c'est ça. Mais d'ailleurs, c'est une bonne question pour nous. Qui a vu Marie pour savoir que c'est ça, c'est Marie? Voilà. Ouais. Mais en plus, donc, la Bible dit clairement dans Ecclésiastes 9, 5 à 6, les morts n'ont plus rien à voir avec ce qui se passe sur la terre. Donc ce n'est pas Marie, c'est en réalité un démon qui se prénomme comme ça, quoi.
Et il a dit, est-ce qu'à Notre-Dame de Bonneville, c'est-à-dire qu'il y avait une apparition?
Notre-Dame de
Bonneville.
Certainement, lorsque vous entendez Notre-Dame de quelque chose, en général, il y a eu une apparition là. Oui. Notre-Dame de Bon Secours, il y a eu une apparition à Bon Secours. C'est ce qu'on appelle la veuve noire. La vierge noire. La veuve noire, c'est une araignée, attention. Voilà, ok.
Moi, j'avais la question, enfin, c'est aussi la persévérance, je pense, parce que des fois, comme on voit Moïse, Pharaon, l'épreuve, elle a duré 40 ans avant qu'il soit délivré. Et il y a des fois, c'est peut-être un peu plus long. Pour des miracles ou...
L'épreuve, avant que les enfants d'Israël connaissent des miracles avec Moïse, ça a traîné. Pourquoi ça a traîné? Parce que c'est aussi un point qu'on a cité, mais pas sans approfondir, c'est la dépendance. Le peuple d'Israël était trop à l'aise en Égypte. Dieu savait que s'il les libérait, ils allaient contester. Donc il fallait vraiment qu'ils aient soif de quitter. D'ailleurs, malgré ça, ils ont quand même contesté. Imaginez que Dieu les libère avant ça. Ah, ça allait être comment? Donc aujourd'hui, parfois, Dieu n'agit pas parce qu'on n'a pas soif de lui. On n'a pas besoin en profondeur de lui. Et il n'agit pas. C'est à cause de ça.
Oui, je pense que le Saint-Esprit est trop attristé, puis il faut vraiment revenir à lui.
Enfin... Voilà, il faut vraiment qu'on ait soif de lui. Et c'est ça, quoi. Oui. On ne veut pas quitter le sujet, là. Oui, oui.
Oui, c'est vrai, quand on parle des catholiques, ça passionne. Donc, moi, je voulais savoir pourquoi est-ce que les catholiques, quand ils parlent des évangiles, en parlant, par exemple, de l'évangile de Matthieu, ils disent toujours Saint Matthieu, Saint quelque chose, que nous, on ne le dit pas.
Les protestants ont pris aussi ça.
Comment ?
Les protestants aussi ont pris ça.
Oui, mais pourquoi est-ce qu'ils rajoutent le Saint devant, quoi ?
Oui, mais parce qu'eux, ils créent des personnages spéciaux qu'on vénère, qu'on adore. C'est leur système. D'accord. Voilà. Donc, créer des personnages spéciaux.
Oui. Il n'y a pas que les apparitions de Marie qui sont fausses, parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont eu des apparitions de Jésus, de la personne de Jésus, et quand ils te disent ça, ils représentent, je sais pas, l'image de la personne qui a, par exemple, qui a joué le rôle de Jésus dans les films de Jésus. Ou...
C'est pas que non, les apparitions. Il y a des cas, c'est vraiment Jésus. Hein. Non, mais, on ne peut pas savoir, mais.
Mais quand... personne n'a vu Jésus, personne ne connaît son visage, personne ne connaît.
Mais tu auras une conviction puisque Pierre a vu Pierre et Jacques et Matthieu. Quand ils ont vu Élie et Moïse, ils les ont reconnus dans la montagne de la Transfiguration. Donc tu as une conviction que c'est la personne. Voilà.
Mais quand on analyse bien, c'est... Enfin, je sais pas...
Oui, je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup de cinéma, mais il y a aussi des cas qui sont vrais. Il y a des cas qui sont vrais. Voilà. Bon, ok. Un problème qu'on a posé aussi, c'est que il y a des gens qui ont dit... Mais nous, les chrétiens, nous sommes souvent confrontés à des serviteurs. Il y en a un qui va dire A, l'autre va dire B, l'autre va dire C. Et nous sommes perdus parce qu'on va suivre qui ? Que faire dans ces conditions-là ? Et parce que je parlais même avec une sœur hier qui me disait, mais je parle avec un catholique. Et il me demande maintenant d'aller voir son prêtre. Moi, je dis, s'il te demande d'aller voir son prêtre, c'est que lui-même, il a été déstabilisé par ce que tu as dit. Au fait, il croit à travers son prêtre. Si son prêtre est convaincu, lui aussi, finalement, il sera convaincu. En réalité, par rapport à des arguments bibliques, il a perdu dans la discussion. Maintenant, il veut être fortifié par son prêtre. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que nous ne devons pas croire par rapport aux humains. Ni par rapport au pasteur, ni par rapport au prêtre, ni par rapport à je ne sais qui. Nous devons croire par rapport à ce qui est écrit dans la Bible. C'est ce qui est écrit que nous devons suivre. Maintenant, la question qui revient encore, mais oui, mais puisque ce qui est écrit, les humains qui connaissent plus que nous, ils interprètent d'une manière contradictoire. On va suivre qui ? Alors, la réponse est que Jean 16, 13, Jésus dit, le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Faisons confiance au Saint-Esprit. Quand nous recevons trois versions de personnes, deux versions de même passage, lisons nous-mêmes le passage. En lisant le passage, faisons confiance que le Saint-Esprit donnera le sceau sur la personne qui a donné la bonne explication. Voilà. Donc nous devons... pas être déstabilisé par cette affaire-là. Lisons, et le Saint-Esprit tranchera. Parce qu'il est vrai que c'est écrit que Dieu a établi des gens pour conduire son troupeau. Donc, il y a certaines choses dont on n'aura pas nous-mêmes directement les explications, mais on les aura à travers les gens qui nous conduisent. Cependant, quand il y a contradiction, ben, nous devons nous-mêmes lire le passage et le Saint-Esprit nous parlera et tranchera. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup ne sont pas sincères. Ils vont lire par rapport à ce qui les arrange. Ce qui fait que suivant, ils suivent les faux. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est eux-mêmes. Ils connaissent la vérité, mais ils suivent une version qui les arrange dans la chair. C'est ça la réalité. C'est ce qui explique d'ailleurs le fait qu'il y ait beaucoup de faux mouvements. Parce que les gens finissent par suivre ce qui les arrange dans la chair et non pas ce qui est vraiment vrai. Donc, quelque part, pour connaître la vérité, il faut être soi-même vrai. Nous connaissons ce fameux verset du Seigneur que nous allons lire pour clôturer dans Jean 19, quand Judas, et non, Pilate lui pose la question, qu'est-ce que tu es venu faire? J'espère que c'est Jean 19. Jean 19, pardon, j'ai pas entendu.
Ça doit être dans 18, 37.
Jean 18, 37. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Donc pour être dans la vérité, il faut toi-même être vrai. Ça veut dire quoi être vrai? Ça veut dire que tu t'attends à ce que vraiment Dieu te parle et non pas tu as ton opinion que tu veux entendre passer par Dieu. Donc tu dois vraiment lire dans un esprit de sincérité. Je lis pour savoir la vérité. Je veux écouter Dieu et non pas tu as déjà presque 3 opinions, tu as déjà choisi ton opinion et tu veux lire ton opinion dans le passage biblique. Et là, c'est vrai que ça conduit beaucoup à suivre les faux. Et donc, qu'est-ce que nous devons faire face aux personnes qui nous disent « Mais oui, mais moi, mon pasteur m'a dit ceci. » On dit « Non, bien-aimé, ce n'est pas le pasteur qui va te suivre. D'ailleurs, peut-être que ton pasteur va mourir avant toi. » Donc, c'est la preuve même que ce n'est pas lui qui va te sauver, puisque peut-être qu'il va mourir avant. Il est plus vieux que toi. Donc, c'est la parole de Dieu qui sauve. C'est la Bible. Maintenant, le passage que moi, je te donne, lis-le toi-même. Lis-le et reçois la conviction du Saint-Esprit. Voilà, c'est le Saint-Esprit qui va trancher. Et nous devons apprendre, bien aimé, aussi à faire confiance en Dieu. Nous ne devons pas, dans les discussions, vouloir à tout prix avoir raison. Nous devons dire ce qu'on a à dire et laisser Dieu convaincre les cœurs. Quand on veut avoir raison, on finira par manipuler les gens. Ce n'est pas bon. Donc il faut dire ce qu'on a à dire et laisser le Saint-Esprit convaincre. Et nous attendre à ce qu'il convaincra. Il faut avoir la foi aussi dans ce domaine-là. Et souvent, surtout nous qui participons à des émissions où il y a des débats contradictoires avec d'autres pasteurs, avec d'autres faux mouvements, ben, il y a des moments où tu veux qu'on te laisse la parole 30 minutes, mais c'est impossible. Donc on ne te laisse que 5 minutes ou 3 minutes la parole. Donc il faut, pendant ces 3 minutes-là, dire ce que tu as à dire, de sorte qu'après toi, ça continue à fonctionner, quoi. Voilà. Dire l'essentiel qui puisse fonctionner après toi, mais cet essentiel-là, c'est la Bible. C'est écrit, la personne lit, et tu fais confiance que le Saint-Esprit parlera clairement à la personne. Mais les gens, souvent, ils ont leurs propres idées. Et il y en a aussi souvent des gens qui disent, mais Dieu m'a parlé, mais bien-aimé, Dieu ne peut pas te dire quelque chose qui est contraire à la Bible. Il y a des gens qui disent, mais quelle coïncidence! Je me lève le matin, mon oncle me dit telle chose. Et moi, la nuit, j'avais pensé à ça. Donc, c'est vraiment de Dieu. Non. Nulle part, c'est écrit que quand ton oncle te dit quelque chose auquel tu avais pensé, que c'est de Dieu. Il faut que ce qui est de Dieu soit écrit dans la Bible. Parce que là, vous allez subir beaucoup de choses. Il y a des gens, quand tu entres dans l'église, ils savent combien tu as dans ta poche. Frère, tu as 100 francs dans la poche. Dieu veut que tu sèmes. Et beaucoup de gens ont donné comme ça. Parce que Dieu, mais comment il sait que j'ai 100 francs? C'est un voyant, c'est normal. Pourquoi tu t'étonnes? Comment il sait que j'ai 1000 francs? Mais il le sait. Parce qu'il a des agents démons qui lui ont dit. Ah, donc c'est que c'est Dieu, non. Nous, on doit se poser la question suivante. Est-ce que Dieu, dans la Bible, on a vu Dieu mendier de l'argent après quelqu'un? Non. Donc ça, ce n'est pas de Dieu. Voilà. Il ne faut pas que les coïncidences, parfois, nous font croire qu'on est dans la vérité. Ou les révélations, les inspirations. Il faut toujours vérifier que ça soit conforme à ce qui est écrit. Nous devons faire comme les chrétiens de Béret. C'est très important. Lire nous-mêmes les Écritures. Voilà. Que Dieu soit béni. Donc, mardi prochain, nous parlerons du phénomène mariage et autres. Prions le Seigneur. Seigneur, merci de nous aider à réunir les conditions qui feront que tu agisses comme autrefois, que tu agisses conformément à Jean 14, 12. Nous prions que tu nous aides à chercher ta face, à te chercher toi, et non pas à chercher tes cadeaux, Seigneur. Car lorsque nous t'avons toi, nous avons les cadeaux en plus. Alors que si nous avons les cadeaux comme les lépreux, parfois on ne tape à toi-même et ça ne sert à rien du tout. Aide-nous, Seigneur, à te faire confiance et à nous attendre à ce que les choses se passent comme dans les actes des apôtres, à notre époque aussi, car il est écrit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Merci, Seigneur, d'agir en sorte que nous éduquions les gens à lire la Bible, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de versions et nous ne devons pas chercher à défendre notre version, mais nous devons chercher à faire lire la Bible aux gens et ils recevront ton message à travers les versions qu'ils entendent. Merci Seigneur de nous y aider, de nous aider dans cette tâche et de nous augmenter la foi, de croire que toi tu convaincras les cœurs. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons pour toutes choses. Amen. Voilà.